Bonjour. Donc nous avons une table ronde consacrée à jeunesse et vieillissement dans la création. Alors je suis Denis Bajram, auteur de BD, mais là je suis là comme modérateur pour faire parler tous ces beaux auteurs, romanciers pour la plupart, avec une scénariste de bande dessinée. Ariane Gélinas, qui vient de notre beau pays frère du Québec. Bon, je vous laisserai vous présenter ou éventuellement parler de vos œuvres directement dans l'intervention, c'est pas plus mal, autant se consacrer au sujet. Valérie Mangin, qui est scénariste de bande dessinée.
Bonjour, Paro, bonjour.
Que je le fasse dans l'ordre. On a Emma Newman, qui vient d'un autre pays cousin, mais de là, de l'autre côté de la Manche, Angleterre, c'est ça?
Je suis désolée.
Pardon?
Je suis désolée.
Je vérifie que ça marche en même temps. Et qui sera donc en traduction, j'espère que vous avez vos boîtiers. On a Olivier Berinval qui vient de France. Là, les choses sont plus simples. Et Nabil aussi. Voilà. Donc, Ouali. Voilà. Donc, on va passer directement au sujet parce que j'avoue que les présentations longues en table ronde sont toujours trop longues, je trouve. Alors, jeunesse et vieillissement dans la création. On est dans le sujet du temps aux Utopiales cette année. Donc, inévitablement, le temps qui passe fait vieillir les êtres humains. C'est la partie désagréable de la chose. On va commencer par se poser la question de simplement qu'est-ce que la jeunesse et le vieillissement, parce qu'on a des mots, mais ont-ils le même sens selon les pays, selon les cultures, etc. On va faire un petit tour de table. Qui est prêt à commencer à dire ce qu'est la jeunesse pour lui et pour sa culture et la vieillesse, évidemment.
Ah, je peux commencer si... quand j'ai appris l'intitulé de la table ronde, je suis immédiatement allée voir sur Wikipédia ce qu'était la jeunesse, justement, parce que je n'avais pas vraiment de réponse toute faite. Et j'ai vu que pour Wikipédia, on est jeune jusqu'à 25 ans. Bon, je me suis dit, c'est un peu rude quand même. Alors, je suis allée voir d'autres, j'ai essayé de chercher d'autres sources, et je suis tombée sur plusieurs sondages qui demandaient aux gens, alors, vous sentez-vous jeune ou vieux? Et on s'est rendu compte que c'est seulement à partir de 75 ans que les gens se disent vieux. Donc il y a tout un décalage comme ça entre Wikipédia et peut-être la donnée officielle et le ressenti physique des gens. Et je crois que c'est un peu ça qui sous-tend toute la réflexion autour de la jeunesse et de la vieillesse, c'est qu'il y a vraiment, c'est vraiment une donnée très subjective et propre à chacun, quoi.
Est-ce qu'au Québec on est jeune et vieux aux mêmes âges?
Je trouve ça amusant aussi avec l'idée qu'on arrête d'être jeune à 25 ans. Et puis, comme ça vient d'être dit, c'est assez relatif. J'avais consulté, par exemple, un sondage qui demandait à des enfants à quel moment on commence à être vieillissant et à quel moment on est vieux. Et selon une perspective enfantine, eh bien, ce qu'il y avait compilé comme données, c'est qu'on commençait à être vieillissant vers 45-46 ans et on était vieux en ayant 95 ans. Alors, c'est très gentil de leur part de trouver qu'on est très vieux à cet âge-là. Et puis, on voit la relativité de la question qui varie aussi selon les époques. Au Moyen Âge, avoir 25 ans, c'était quand même pas mal. Et ça varie également selon les cultures aussi, cette perception-là de la jeunesse et de la vieillesse de façon assez, assez franche. On a peut-être un peu plus compartimenté ceci aujourd'hui, entre autres en ayant des collections comme le Young Adult et puis...
I think it's also to do with how old you are, because I know that now I'm in my early 40s. That does not seem as old as it did when I was in my 20s. And when I speak to people in their 60s and their 70s, they say, you're so young, and I don't feel young. So I think it's a relative thing about where you are in your life. Also, I think the perception of when you are old is changing with the generations. When my grandmother, my maternal grandmother, was in her 60s 20 years ago, she seemed much older than my paternal grandmother, who is in her 80s now. And I think that with advancement in healthcare and in lifestyle, that our perception of when somebody gets really very old is changing by each generation. So I hope that when I am in my 80s, it will seem like people in their 60s are to me now, but I don't know. It's luck as well, isn't it? How infirm you become, how your health endures. These traditional markers of age in terms of physicality, but also there's the mental aspects of age, how somebody continues to adapt. My grandmother, who is 80, texts me all the time, but my mother, will not switch on a mobile phone. And so it's the attitude as well, mentally, I think, that determines how old we are perceived to be.
Oui, je suis évidemment d'accord avec tous ces commentaires sur la relativité de la perception de l'âge. C'est vrai que déjà, ça dépend beaucoup de nos sociétés. Dans nos sociétés occidentales, on a toujours tendance à se voir plus jeune qu'on est. C'est le fameux concept de l'adolescent. C'est le mixte entre l'ado et l'adulte hein, que l'on retrouve désormais un peu partout dans nos sociétés. Et il y a également une question par rapport à la parentalité. Moi, je voulais juste prendre un exemple. Moi, je me suis déplacé assez souvent en Afrique. En Afrique, on peut être grand-père à 40, 45 ans. Tandis que quand je vais voir des amis en Allemagne, à 40, 45 ans, on est peut-être à peine parent parce qu'ils vont avoir leur enfant entre 35 et 40 ans. Donc, on voit que la notion d'âge est aussi fortement lié avec la notion de parentalité. Et même à notre époque, sans remonter effectivement au Moyen-Âge ou à la préhistoire, où on était déjà un vieillard à 40 ans, même en fonction des pays, entre les pays du Nord et les pays du Sud, parfois on peut même sauter une génération à âge équivalent. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant.
Ouais, c'est super parce que du coup tous les autres ont dit déjà tout ce qu'il y avait à dire sur cette question.
Tout le monde n'est pas obligé de répondre à toutes les questions, hein, faut pas s'inquiéter.
En fait, simplement, oui, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit. Et ce qui ressort pour moi, c'est vraiment la question du référentiel, c'est-à-dire à partir de quoi et sur la base de quelle perspective on évalue en fait le vieillissement et l'âge d'une manière générale. Et à partir du moment où on considère que le référentiel conditionne la manière qu'on a de percevoir le vieillissement, l'âge ou la jeunesse, ça transforme complètement notre perception de la chose, que ce soit pour des principes culturels, par rapport à des instants de vie, par exemple on a parlé de la parentalité, par rapport à la culture. Je pense que le référentiel d'une manière générale est la clé pour comprendre l'impact qu'a le vieillissement sur nos cultures. Les commentaires qui ont été faits sur le fait que des personnes qui ont un certain âge aujourd'hui paraissent plus ou moins âgées que des personnes qui avaient le même âge à d'autres époques ou dans d'autres cultures, corrobore en fait cette idée.
On va s'intéresser à la création. C'est la question du jeunisme chez les personnages. Est-ce qu'un héros, une héroïne, doit être jeune par principe ? Est-ce que même quand c'est un vieux héros, vieille héroïne, c'est par principe presque un anti-héros, une anti-héroïne ? On commence dans l'autre sens, comme ça.
Il faut toujours négocier. Je me demande dans quelle mesure ça n'a pas un lien avec cette tradition du récit initiatique en fait. Le récit initiatique étant quelque chose qu'on considère comme clé dans le développement d'un personnage et des personnes qui reçoivent ce personnage, qui le lisent, qui le voient, etc. Fait qu'on a tendance à voir le récit initiatique comme le passage en fait de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est pour ça que je me demande dans quelle mesure on n'a pas fait coïncider, juxtaposer de manière contiguë le fait d'être jeune et le fait de pouvoir être un héros. À l'inverse, comme tu dis, l'idée qu'un personnage âgé, s'il est le personnage principal, sera plus facilement un anti-héros. Peut-être qu'il y a des questions de cynisme, peut-être qu'il y a des questions de mode aussi, mais je pense qu'on n'a pas encore suffisamment exploré l'âge, justement, la vieillesse des personnages. On le fait, mais je pense que ce n'est pas suffisamment encore ancré dans la culture, quelle qu'elle soit, pour qu'on puisse vraiment avoir un état de l'art suffisamment satisfaisant pour comprendre pourquoi effectivement aujourd'hui un héros est jeune.
Très, très intéressant ce que tu dis sur les romans initiatiques, ça rejoint bien entendu le roman d'apprentissage. Ou si on se tourne vers la littérature jeunesse, ça va être assez flagrant souvent qu'on va avoir des jeunes héros pour le principe de l'identification du jeune lecteur, alors que c'est extrêmement fécond et intéressant à explorer les personnages plus âgés. Puis il y a certains auteurs, je pense spontanément à Marc Agapit, qui travaille toujours, qui a publié des livres au Fleuve Noir notamment, qui travaille toujours avec des personnages âgés. Souvent, ça va être des couples. Et puis, c'est peut-être pas si répandu que ça pourrait l'être et que ça devrait l'être, parce qu'on peut-être inconsciemment un petit peu qu'on travaille avec des points tournants et puis on va peut-être comme auteur, comme créateur, pour reprendre le terme qui a été utilisé, on va peut-être se dire « Ah, c'est intéressant de travailler avec le pivot, disons, de la fin de l'âge adulte à la vieillesse plutôt que de plonger directement dans la vieillesse, comme s'il y avait quelque chose là. » Je pense aussi à des westerns ou à Wild Wild West qui est dans une série dans laquelle il y avait du fantastique et puis de la science-fiction. Et puis, on avait un personnage souvent qui se déguisait, Artemis, là, qui se déguisait en personne âgée, tout ça. Mais on avait ce thème-là qui revenait dans le western souvent. Alors, c'est le cow-boy qui est un petit peu à ses dernières forces. Et puis, on va le suivre avec la rencontre avec un petit jeune, mais moins après. Alors,
c'est un peu... Oui, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que le héros fait un peu le choix d'Achille, vous savez, entre vivre pas très longtemps, mais de manière très intense, vivre longtemps, mais avoir une longue vie ennuyeuse. Bon, évidemment, le héros, il choisit la vie brève et intense. Et c'est cette figure du héros assez traditionnel qui est avant tout un homme d'action et pas forcément compatible avec l'image traditionnelle du vieillard. Justement, où dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et même après, le vieillard est celui qui ne peut plus combattre, par exemple, qui ne peut plus avoir d'action. C'est le patriarche à qui on demande conseil, mais qui n'agit plus par lui-même. On a un peu le même problème pour les femmes, où l'image traditionnelle de la vieille femme, c'est une image qui est soit la vieille sorcière méchante, soit la vieille femme qui est tellement atteinte par l'âge qu'elle ne peut quasiment plus bouger et plus agir. Quoi. Et cette incapacité à agir est antinomique avec l'idée traditionnelle du héros, justement, qui fait que le vieillard ne peut plus être ou est un adversaire, comme je parlais de la sorcière, ou est une simple aide, en fait. Un peu comme le druide Panoramix dans Astérix. Vous voyez, on n'imagine pas Panoramix aller prendre sa grande épée et aller tuer des Romains. Quoi. C'est pas, ça marche pas. Quoi. Et peut-être qu'à notre époque, on sort un peu de ces clichés-là, justement, et qu'on commence à avoir des héros vieux pour cette raison. Quoi. On n'envisage plus la vieillesse comme la fin de l'action. Quoi.
I think it depends on the kind of story that you want to tell. If you want to do heroic fantasy where there is a quest, then it makes sense to have somebody who is physically dynamic, as you say. When I wrote Planetfall, the protagonist, I don't know if I would call her the hero, but the protagonist is 70 years old. And she had to be 70 years old because I wanted her to have an entire lifetime of experience. And also it takes them 20 years to get to the planet where the story is set. And she needed to realistically be very, very skilled in her field, be very, very learned, and then have a generation's worth almost of travel before the story even begins. And when you choose to have a protagonist who is older, you can draw upon a wealth of experience, and it fundamentally becomes a different kind of story to the story of somebody who is new in the world and is discovering things for the first time. I'm reading Embers of War, an advanced reader copy, which is Gareth L. Powell's next space opera. And in that, there are several female characters who are older women, and they are people who have fought a war, and they have been changed and damaged by their experiences, and yet they are still very active, they're still being heroic. And I think that's where in science fiction you can do interesting things with age, because that's where you have the intersection with technology. My protagonist is 70 years old, but she doesn't act like we might think of a 70-year-old, because the advancement in medical technology means that she can be just as vital. She climbs, she does really quite physically demanding activities at various points because she is able to. So I think we have greater freedom in those kinds of stories where you can have the best of both worlds. You can have the physically dynamic hero, but you can also have the experience of age.
Oui, effectivement, je pense que dans la science-fiction, je vais prendre deux exemples. Avoir un héros qui est vieux, c'est souvent avoir un anti-héros. Lorsque le héros est déjà vieux, cela pose un problème à l'auteur. Alors, je prends l'exemple du Vieil homme et la guerre de John Scalzi, où on a affaire à une sorte de guerre qui est menée souvent par des anciens retraités à qui l'on confie un nouveau corps synthétique. Et ce qui est intéressant dans cette narration, c'est que l'on voit que ces vieux personnages ne peuvent pas être des héros à part entière, prendre part à une quête tant qu'ils n'ont pas été transformés, on ne leur a pas donné un nouveau corps. Et ça, c'est quelque chose. Donc, le Vieil homme et la guerre de Scalzi est un ouvrage assez récent. Mais on a également la même chose avec Philippe Joseph Farmer, donc dans les années 50, avec la saga des hommes-dieux, où on a Robert Wolf, qui est de la même façon un retraité américain, et qui ne peut pas interagir jusqu'au moment où on lui confie également un nouveau corps, et il devient Jadawin, qui ensuite va avoir des aventures épiques dans l'univers et dans les cosmos privés qui ont été créés par les seigneurs, les Toan. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a cette sorte de transmutation, de transformation qui est nécessaire pour que le vieux protagoniste redevienne jeune afin de pouvoir mener l'action et mener cette quête initiatique, comme le mentionnait Nabil.
On a évoqué des personnages féminins déjà. On sait que la société porte un regard très injuste sur le vieillissement des femmes, toujours aujourd'hui, par rapport à celui des hommes. L'homme qui grisonne est séduisant, la femme qui grisonne serait tout de suite une femme vieille. On sait que c'est... Bon, ça change heureusement, mais vous pensez que dans les personnages, il y a aussi ça dans les romans aujourd'hui? Est-ce que vous essayez de combattre ça? Voilà.
Not as much as in Hollywood. I think it's a serious problem in Hollywood. And I'm seeing changes in television, that television seems to be better at this. But for a long time, it felt like women only existed before the age of 30 and after the age of 70. And that you're only ever allowed to have three actresses who are over 70 and famous at any one time. Can't have more than that, it feels like, in cinema. And we have our current three very famous older women. And it really did feel like we kind of disappear, and it was horrible. But I don't think that's as much of a problem as in novels.
Oui, c'est vrai que c'est moins un problème. C'est vrai que j'ai encore vu une interview d'actrice juste avant de venir où elle disait qu'elle avait 38 ans et qu'elle avait été jugée trop vieille pour être la maîtresse d'un homme de 55 ans. Donc à 38 ans, on ne peut plus séduire un homme de 55 ans. Bon, je suis contre cette idée, évidemment. Et d'ailleurs, notre président Macron a au moins eu le bon goût, lui, d'avoir une épouse plus âgée que lui et de prouver qu'on peut être séduisante à n'importe quel âge. Mais c'est vrai que dans les romans, on essaie un peu de dépasser cette-là et de sortir un peu justement de la vieille femme dont je parlais, ou sorcière, ou totalement délabrée physiquement. Et on commence à avoir des héroïnes qui marquent à la fois par leur âge et par leur personnalité. Ça, c'est un peu une vieille histoire. Je pense déjà Frank Herbert, dans Dune, avec les sorcières du Bene Gesserit, montrait des femmes âgées très puissantes, avec des personnalités extrêmement fortes, voire plus puissantes que les empereurs, en quelque sorte. Mais bon, c'est encore très long à venir. Je crois qu'on n'est pas au bout du chemin. Moi, dans ma série Alix Senator, où je montre un héros vieillissant, je montre parallèlement son grand adversaire, qui est l'impératrice Livy, qui est une impératrice qui approche la cinquantaine, et qui est à la fois un personnage assez négatif, qui est l'ennemi du héros, mais qui en même temps est une femme très puissante, qui se retrouve avec Auguste à la tête de l'Empire romain, et qui entretient une relation très particulière avec lui, parce que loin d'être une épouse soumise et restreinte à la vie privée, elle a de vraies conversations politiques, ce qui est vrai historiquement d'ailleurs, qu'elle avait avec lui, et que c'est un personnage extrêmement agissant, qui peut s'opposer à lui, quand même pas ouvertement, mais quand même s'opposer à lui en faisant des conjurations, en défendant des idées. Alors Livy, historiquement, était pour la République romaine et contre l'Empire, contre son mari, ce qui causait de nombreux conflits politiques entre eux. Et j'ai essayé de rendre ça, bon, c'est bande dessinée, je n'ai que 46 pages, donc je le rends de manière plus légère qu'historiquement, mais quand même à garder cet aspect-là, quoi. Que Livy n'est pas, l'impératrice n'est pas une potiche, quoi. C'est vraiment le collaborateur de son mari, voire l'adversaire de son mari quand l'occasion se présente, et qu'elle n'hésite pas à le lui dire, quoi.
Alors, bon, c'est vrai, on va sentir ce jugement-là pour l'âge, mais également dans l'autre sens, par rapport à l'exemple que tu donnais. Alors, personnellement, eh bien, j'enseigne depuis quelques années et j'ai le problème inverse de que mes étudiants croient que je suis plus jeune et ils vont me considérer à partir de ça plus jeune que mon âge réel. Alors, ça va créer une espèce de problème qui est lié à l'âge, mais à l'inverse. Alors, maintenant, j'ai presque envie de commencer mes cours en disant mon âge pour clarifier les choses, parce qu'autrement, ils vont me dire, t'as 2 ans de plus que moi, alors pourquoi est-ce que je t'écouterais sagement? Alors, il y a ça, et puis il y a aussi de manière plus romanesque, la façon dont je peux avoir travaillé comme créatrice également pour mettre des personnages féminins forts, c'est dans une perspective mythologique ou en s'approchant de certaines figures du conte. Parfois, on peut penser à la fée marraine, par exemple, qui est un personnage positif et puis qui va aider les récits. Ou si je me reporte, par exemple, à mon dernier roman qui s'appelle Les cendres de Senna, eh bien, on a une... on a une déesse qui vient de l'extrême nord du Québec qui, bien qu'elle soit blessée et qu'elle peut sembler potentiellement négative, eh bien c'est elle qui a été victime d'un grand sort qu'on peut qualifier de cosmique depuis des siècles et qui voudrait malgré tout arriver à des fins positives. Alors, en travaillant avec ces éléments-là, je trouve que ça permet d'avoir une image qui s'éloigne un peu de la sorcière, bien que je confesse en tant que lectrice de fantastique que j'aime beaucoup les sorcières et qu'il y en a des très gentilles. Et puis j'ai l'intention de continuer à écrire un peu sur les sorcières.
Par rapport à la question du genre, ce qui moi me turlupine, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la question de la dynamique, en fait. Le fait qu'un personnage jeune soit dynamique et donc apporte, peut changer, etc., le récit, contrairement à un personnage plus âgé qui subit, qui est plus passif, qui crispe, qui... Et en fait, je pense que il y a un angle à voir par rapport à la question du genre, dans la mesure où, effectivement, on considère que les personnages jeunes recouvrent un champ de possibles qui est beaucoup plus important que les personnages âgés, pour des questions physiques, intellectuelles, d'adaptation, etc. Et je pense que, malheureusement, la culture et le patriarcat ont invité les gens, en fait, à réduire spontanément chez les femmes les champs de possibles et les potentiels. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on accepte plus facilement le vieillissement chez les hommes dans la réalité et dans les œuvres de fiction, parce qu'on a moins ce besoin ou ce réflexe de réduire leur champ de possibles et leur potentialité, en fait. Alors qu'effectivement, une femme qui vieillit pourra moins qu'un homme qui vieillit de toute façon, en fait. C'est la perception qu'on en a.
C'est le problème des héroïnes qui sont beaucoup moins présentes que les héros en général, quel que soit leur âge, de toute façon. Tout à fait.
Et de tous les clichés qui
sont vieillissants, c'est la double peine, en fait.
Exactement.
Oui, je crois que le problème, effectivement, comme disait Emma, notamment dans les représentations hollywoodiennes, ce sont souvent des mâles blancs, quinquagénaires, qui écrivent les scénarios ou qui produisent les séries. Donc, ils trouvent forcément que les mâles blancs, quinquagénaires, sont les plus sexy du monde par rapport aux autres groupes.
Il y a des producteurs qui pensent ça aussi.
Il y en a qui pensent ça. Et forcément, les femmes sont souvent représentées à partir d'un certain âge dans des stéréotypes. Et souvent, c'est le stéréotype de la femme mûre, intelligente, mais manipulatrice et quelquefois machiavélique. On a un très bon exemple avec Claire Underwood dans la série House of Cards. Donc, à partir d'un certain âge, à partir de 50 ans, une femme est forcément manipulatrice. C'est quelque chose qui est inscrit dans les gènes, apparemment. Où on a, par exemple, sur un traitement plus positif, on a M dans James Bond, qui est également l'éminence grise qui tire toutes les ficelles, et James Bond est finalement l'agent de terrain qui réussit à mettre en œuvre ses plans. Mais on voit bien qu'il y a une séparation entre, je dirais, la planification stratégique, les tractations d'alcôve qui sont opérées par les femmes et l'action qui est relayée par des hommes qui ne sont pas forcément beaucoup plus jeunes qu'elles. Donc là, il y a toujours un traitement un peu archétypal des femmes.
Voir pour James Bond, parfois vieux, l'acteur a souvent été vieux dans le rôle, quoi. Alors, jeunesse et vieillesse, on peut le lire aussi en tant que conflit de génération. Ce conflit de génération a souvent nourri le romanesque. Est-ce qu'il faut obligatoirement tuer son père, en fait? Est-ce qu'ils font perdre son maître à penser obligatoirement parce qu'il est-ce qu'il faut rendre jalouse sa mère? Enfin, est-ce qu'on est obligé à ce conflit de génération dans le romanesque, dans le fantastique? Est-ce que c'est un bon moteur, ou est-ce que tout ça pourrait dater un peu maintenant?
I think you can be lucky to find a mother. Usually they're killed off in a backstory to propel the hero into their plot. It's one of those things, even when we had M in James Bond, she was still killed off eventually. I think there is a real problem with generation and gender, the whole idea of fridging the female characters. So I think, again, we're looking at a difference between Hollywood and novels, but I think here we're also looking at the media, because there is a lot of stuff in the social media networks that I see about the older generation blaming the younger generation, saying that millennials are lazy and weak and they want everything, and younger generations blaming the older ones, saying, well, you had it all easy and you've ruined everything for us. And I really, really dislike the way that the media is trying to drive a wedge between generations. It really does feel like that. It feels like a divide and conquer almost. It feels like an artificial thing. Certainly all of the people, I know people from all generations in my own life, don't have these attitudes towards each other, that the anger is very much directed at the politicians. But of course the media doesn't want that. They want everyone to turn on each other. As for whether it can drive a plot, I mean, I'm actually really very bored of stories where the young man has father issues and then has to either redeem his father or kill his father at the end. And I'm thinking more of Hollywood in this. I just wish that Hollywood producers were sent into therapy for 10 years to deal with their father issues before they were allowed to write scripts. We would get much more interesting movies, I'm sure. And of course, if more women were given opportunities as well.
Oui, pardon. Oui, je disais que on sait que depuis Oedipe que c'est quand même le nœud du conflit de tout jeune garçon. Mais c'est vrai que c'est quand même. Il y a beaucoup de gens qui partagent maintenant votre opinion, parce qu'on a vu en 2015 quand les Restos du cœur ont voulu faire une chanson. Je crois que c'est Goldman qui l'avait écrit, qui opposait d'un côté des vieux chanteurs entre guillemets qui étaient accusés par de jeunes chanteurs qui étaient en face d'eux dans le clip. Oui, vous avez eu le plein emploi, vous avez eu la liberté sexuelle, vous avez tout eu, et vous nous laissez quoi en héritage? Le chômage, le SIDA et la crise. Et les vieux répondaient, mais tout ce qu'on a eu, on l'a gagné, on l'a pas volé, etc. Enfin, ils mettaient en scène comme ça un conflit de génération, et en fait, cette chanson n'est pas du tout passée dans l'opinion. Les Restos du cœur ont dû la retirer. Donc c'est vraiment, je crois que c'est une vision des conflits de génération qui passe de moins en moins, peut-être, dans la population, et qui est refusée de plus en plus, justement.
Oui, en ce qui concerne la mort des parents, bon, oui, c'est un moteur qui est un peu usé, mais je pense qu'on peut comprendre son efficacité et puis son intérêt d'un point de vue dramatique aussi, lorsque notamment un roman va débuter avec un enfant ou un jeune adolescent qui doit faire face à la mort de ses parents. Ça peut nous donner aussi comme auteur quelques libertés qui vont être intéressantes, ou je pense à l'univers d'un Charlie Brown. Eh bien, à ce moment-là, on est simplement avec des enfants et les adultes deviennent absents ou inaudibles. Ça nous permet d'explorer narrativement quelque chose qui peut être stimulant. Mais cela dit, c'est sûr que c'est un petit peu usé de commencer avec la mort de la filiation.
Ouais, je me demande si c'est pas par facilité. Ce que tu me dis, ça me fait penser au cliché mille fois éculé du héros orphelin, en fait. Je me demande dans quelle mesure la mort, comme toile de fond dans le passé ou dans l'enfance d'un héros ou d'un héros en devenir, a davantage à voir avec un élément de décor qu'avec la construction du personnage lui-même. Et il y a cette idée, en fait, en philosophie de la mort, sur l'idée selon laquelle on a tendance, en fait, à figer les gens qui sont morts. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, on va tout de suite se précipiter pour dire « il était un tel » ou « elle était comme ça » ou etc., etc., etc. On va attribuer un ensemble de prédicats, de caractéristiques à des personnes qui, si elles avaient vécu 2 semaines plus tard, bah, aurait pu devenir complètement différente, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de rassurant dans le fait de figer quelqu'un qui est mort. Et je me demande dans quelle mesure ça se ressent pas déjà dans le vieillissement, en fait. Comment, dans le vieillissement d'une personne, on essaie déjà de crisper cette personne socialement, en parlant, mais aussi elle-même de manière inconsciente et involontaire, peut-être. Comment une personne, en vieillissant, peut s'attribuer soi-même des caractéristiques et nier au fur et à mesure sa capacité à changer. Je me demande si c'est pas ça, en fait, vieillir. Si c'est pas nier sa propre capacité à évoluer.
Là, on part encore du principe que c'est le héros jeune qui va tuer son père, mais on ne se pose pas la question du père qui va tuer son enfant, finalement. Le conflit de génération, à l'inverse. Je ne sais pas si c'est très, très, très utilisé dans le roman, mais peut-être sous la figure de l'ogre, éventuellement.
C'est plus tabou, je pense.
C'est plus tabou, ouais. Oui, sans doute.
C'est plus tabou, oui. C'est sûr que le conflit générationnel est un moteur puissant dans la narration. Alors, je pense que dans la littérature, on arrive à dépasser assez souvent ce type de schéma. Par contre, une fois de plus, dans les séries ou même dans les films, si on pense évidemment à la Guerre des Étoiles avec Luke Skywalker qui tue pas symboliquement mais effectivement son père, qui a un mentor avec Ben Kenobi, on voit bien que là on est totalement dans ce type de schéma, et on peut multiplier les exemples avec Breaking Bad, avec Walter White, le vieux professeur de chimie qui va devenir un baron de la drogue et qui trouve une sorte de de jeune apprenti, de padawan en quelque sorte, avec Jesse Pinkman. Et ça donne lieu à des scènes formidables parce qu'on voit vraiment le conflit de génération. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et les films qui essaient d'aborder ce débat, alors moi je pense à Gran Torino de Clint Eastwood, qui est un film très intéressant, qui est imparfait, où il y a quand même pas mal de clichés. Mais une fois de plus, c'est intéressant de voir ce retraité qui a fait la guerre de Corée, qui s'appelle Walt Kowalski. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans les séries ou dans les films américains, tous les acteurs âgés s'appellent Walter. Et il va se prendre d'affection pour un jeune asiatique qui a des problèmes avec un gang. Et voilà, il va essayer de l'aider. Et effectivement, sa vision lui montre que finalement, le danger, la barbarie, n'est plus seulement sur les champs de bataille, peut aussi se retrouver dans la vie quotidienne. Et c'est vrai que ce conflit de génération souvent amène le héros à s'apercevoir que quelque chose qu'il a vécu se reproduit sous une autre forme ailleurs. Et c'est cette confrontation entre l'ancienne et la jeune génération qui est intéressante. Mais c'est vrai que c'est une trame qui est un chemin escarpé, qui est plus difficile à suivre, alors que la dynamique conflit générationnel est quelque chose qui est rodé, qui roule bien, et on a souvent tendance à aller à cette facilité.
C'est intéressant le cas d'Eastwood, parce que c'est un acteur qui a vieilli à l'écran et qui a eu des rôles de son âge très souvent, qui a joué le vieux militaire baroudeur quand il était encore en âge de le faire, qui finit en vieux du quartier, etc. Est-ce que vous pensez que les acteurs vieillissants, on l'a vu même dans Harry Potter, dans Star Wars maintenant, des gens qu'on va suivre pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15, 30 ans à l'écran, dans le même personnage. Est-ce que vous pensez que c'est un bien, ou est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous avez envie de faire ça dans vos œuvres? Est-ce que le vieillissement du personnage qu'on va suivre réellement, pas à pas, est un vrai moteur pour écrire, ou au contraire, ça pourrait finalement être rentré dans un quotidien un peu ennuyeux?
Je trouve ça très intéressant, surtout pour les auteurs qui écrivent des séries. Ce n'est pas mon cas, mais puis on a différentes options également. On peut faire vieillir le personnage plus vite ou plus lentement que la réalité, ou on peut aussi opter, comme par exemple le fait un Patrick Sénécal au Québec, c'est notre Stephen King québécois, pour y aller avec les véritables années de vieillissement. Il y a un personnage récurrent qui s'appelle Michel Beaulieu dans plusieurs de ses œuvres, et elle va, à chaque fois qu'elle revient, elle a pris exactement le même nombre d'années, et c'est un procédé que je trouve intéressant. On la rencontre, elle a 16 ans, et puis elle est là, en ce moment, elle est rendue à peu près à une quarantaine d'années, et on sent qu'elle va revenir et qu'elle va grandir de cette manière-là, mais on a la liberté, surtout avec des personnages récurrents, je trouve, ou même de ne pas les faire vieillir, comme on le sait dans certains cas, qu'ils soient toujours cristallisés au même âge.
Oui, parfois, la vieillesse est même un tabou. Je pense à la BD franco-belge, par exemple, on a l'impression que les héros ont toujours le même âge. Tintin ne vieillit pas, Astérix ne vieillit pas, Lucky Luke non plus. Et moi, j'ai donc repris la série Alix de Jacques Martin, une série créée en 48, qui raconte les aventures d'un jeune gaulois, enfin qui devient romain, qui a 20 ans au moment de ses aventures. Et la série continue depuis 1948 et Alix a toujours 20 ans. Alix est toujours le petit protégé de César, etc. Ça n'a pas changé. Et quand on m'a demandé d'écrire sur ce thème-là il y a quelques années, d'abord, c'était une série que j'avais beaucoup aimée dans mon enfance, donc je me suis sentie obligée de dire oui. Et puis en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant justement de changer ça. J'ai repensé au Dark Knight de Frank Miller, par exemple, qui est un auteur de comics, qui a fait vieillir Batman, lui, à son époque. Et je me suis dit que je pourrais peut-être de la même manière faire vieillir Alix. Et j'ai imaginé Alix Senator, où je me suis placée 30 ans après la série d'origine, où donc mon Alix à moi a 50 ans, et non plus 20. Il est devenu sénateur de l'Empire romain, il a vécu toutes les guerres civiles, c'est-à-dire qu'il a changé à la fois physiquement, il a les cheveux blancs, bon, il porte beau toujours, hein, je rassure les lecteurs, il ne faut pas aller trop loin quand même. Mais il a surtout évolué psychologiquement, c'est-à-dire que le boy scout qu'il était à 20 ans, parce que la série Alix, c'est une série très manichéenne, avec le bien d'un côté, le mal, enfin une série BD assez classique. Moi, je voulais un peu sortir de ça. Je voulais vraiment faire un personnage humain avec ses côtés gris, ses côtés sombres. Il a vécu, il a eu de l'expérience, il a eu de mauvaises expériences. Il a vécu l'assassinat de César, par exemple. On sait qu'il a un fils et sa femme a disparu, visiblement. Enfin, il a vécu beaucoup de drames et ça devait se voir dans sa personnalité, quoi. Je crois que c'est peut-être ce qui est intéressant dans le vieillissement des personnages, c'est de voir comment le temps, les événements, qu'ils soient historiques ou personnels, nous marquent les héros et changent leur personnalité.
I think it can also depend on which hero it is. I'm thinking of Indiana Jones, and the movies that were so important to me as a child, and that obviously he was so very beautiful, Harrison Ford, when he was making those. And then there's the fourth one where he's so much older, and I don't know if I want to see my action heroes, who were like the first men I ever loved, aging in that way, because in film in particular, it sticks in our head in that place. And as you were saying, you know, that he your character had to stay handsome. Well, yeah, these are important to us where there's a visual element. But I think in novels, we kind of have more freedom because we don't necessarily... I think it's less of a shock. My husband's trilogy, the Vagrant trilogy, has a baby in the very first book, and in the second book, she is a teenager, and it's almost like a family saga. And the whole family saga format of novels, I think, can be very, very interesting, where you can examine in a lot of detail the impact that having a particular hero or a particular character as a parent has on a character in a later novel, and then again when they become a parent, and you can, in real life, you can trace the damage that is passed from generation to generation. I think that's where you can do some very interesting things.
Oui, alors le vieillissement des personnages est quelque chose qui est très intéressant, puisque ça crée effectivement un attachement du lecteur à ces personnages, à une saga familiale. On s'inscrit dans quelque chose qui est évolutif. Et finalement, le personnage devient en quelque sorte un membre de notre famille. Et c'est vrai que ça crée un lien affectif qui est beaucoup plus fort. Par contre, c'est quelque chose qui, techniquement, pour un auteur, pour un réalisateur, est difficile à faire. Par exemple, moi, je suis toujours admiratif de voir Frank Herbert avec sa saga de Dune, où on voit un Paul Muad'Dib qui évolue depuis un jeune chien fou jusqu'à un homme de pouvoir. Et effectivement, au fur et à mesure de la saga de Dune, on voit toute l'évolution psychologique qui va avec. Et ça, pour un auteur, je dois avouer que c'est quelque chose qui est assez difficile, parce qu'on a des représentations, on va dire, on a un âge idéal d'un héros, et le faire évoluer en plus vieux ou l'imaginer dans son enfance en plus jeune, et d'ailleurs ce ne sont pas les mêmes fonctions qui iraient avec ceci, c'est quelque chose de difficile. D'ailleurs, souvent, lorsqu'on représente le héros plus jeune, c'est souvent ce qu'on appelle le roman d'apprentissage. On découvre pourquoi il est devenu ainsi, quels sont les événements qui l'ont façonné, etc. Lorsqu'on a par contre ce qu'on appelle des sequelles, par opposition aux préquelles, c'est souvent le héros qui revient. C'est un peu le comeback. Le héros est quelque sorte réanimé, il est réactivé pour une dernière mission, puisque finalement, ceux de la génération antérieure ne sont pas capables de gérer le problème, et on a besoin d'aller chercher ce héros-là. Et donc, il y a des fonctions qui sont très intéressantes, mais qui, à mon avis, sont difficiles à traiter, parce que souvent, on a un âge un peu monolithique du héros.
Non, j'ai rien de spécial à dire sur ce sujet, sinon je me demande combien t'as payé Olivier pour qu'il fasse toutes les transitions aussi bien, en fait.
Oui, j'admirais, mais... En fait, j'ai un sidekick, comme on dit dans les spéros. Est-ce que vieillir, c'est toujours mourir un peu, en fait ? C'est vrai que c'est finalement le chemin qui nous amène de la naissance à la mort. Et alors, on va poser la question des personnages immortels, parce que les dieux savent combien ils sont nombreux. Est-ce que être immortel, c'est ne pas vieillir ?
La mythologie nous apprend que non, qu'on peut être immortel et vieillir tout de même. On voit ça dans les générations de dieux, par exemple, où Apollon est un jeune dieu très beau. Son père Jupiter est déjà plus vieux, est un homme mûr, et son grand-père Saturne est carrément un vieillard. Donc même en étant un dieu, on vieillit apparemment. Et on voit ça aussi dans certains mythes, comme celui de la Sibylle, par exemple, dont je parlais déjà tout à l'heure, où la Sibylle en fait était aimée d'Apollon, et Apollon lui a offert l'immortalité en échange de ses faveurs. Et finalement, elle lui a dit non quand même. Et donc, il lui a dit, dans ce cas-là, tu seras immortel, mais tu vieilliras quand même. Elle finit par vieillir tellement, elle sera tétinée tellement qu'elle se transforme en cigale. Donc, c'est comme ça que les anciens expliquaient la naissance de l'insecte. Je ne pense pas que l'immortalité soit liée au non-vieillissement. Quoi. Le vieillissement peut même être une punition dans ces cas-là. On voit ça dans Zardos, par exemple, ou chez ces immortels reclus dans leur espèce de paradis artificiel, quand ils font des bêtises, quand ils se mettent en colère, par exemple, contre les autres, qu'ils deviennent violents, ils sont punis par des années de vieillissement. Donc ils sont toujours immortels, mais ils n'ont plus l'air d'avoir 25 ans, ils en ont 27, puis 29, puis 50, ils dégénèrent physiquement en fait.
Oui, et puis même si la vieillesse ne va pas se manifester dans la corporalité, elle va se manifester de manière psychologique aussi. Ça peut être, par exemple, dans l'usure. On n'a pas abordé la maladie non plus, mais la maladie qui peut justement, bien sûr, retoucher à tout âge. Et puis, du point de vue de la corporalité, il y a certaines créatures aussi qui vont être fascinantes, comme l'axolote, qui vont passer leur vie finalement à un stade larvaire. Alors, tout ça, c'est pas justement une question de vieillissement, parce qu'ils vont vieillir en ayant une forme jeune. Et puis un exemple narratif que j'aime beaucoup, c'est Benjamin Button, qu'on connaît tous, qui finalement, c'est la jeunesse qui l'amène à la mort.
It certainly feels like aging is death after you stay up all night. And there used to be a time when one good night's sleep would make you feel fine, and then it becomes one day of rest afterwards, and then 2 days of rest afterwards, and you can feel that shift. I think the whole idea of immortality and the freezing of the physical aging of the body, but not the mental aging of the character, is something that we've been fascinated, like with vampires. And thinking about Interview with the Vampire, where you have the young girl who is made immortal and ages, but her body still looks like that of a child. And I think that's something that is a really, really fascinating thing to examine. So perhaps it's the juxtaposition of the misaligned physical and mental aging where we can get really interesting things.
Oui, on a effectivement l'exemple du vampire qui reste éternellement jeune, et parfois il peut être effectivement emprisonné dans un corps d'enfant. Sinon, dans les classiques, on a évidemment le syndrome, ce que j'appelle le syndrome de Dorian Gray, avec un être qui ne bouge pas. Mais la contrepartie, c'est évidemment que les miroirs lui renvoient le reflet de son âme, hein, comme tout le monde le sait, et son âme qui est immortelle, incroyablement vieille, elle est pervertie. Donc finalement, l'apparence extérieure n'a pas bougé, mais le vieillissement s'est opéré à l'intérieur, et ce vieillissement est dévastateur, puisqu'il n'y a plus aucune innocence. Et on voit bien que c'est la contrepartie de cette immortalité. Il ne peut pas y avoir d'immortalité parfaite.
Ça me fait penser en fait à un film qui prend complètement le contre-pied justement de cette image de l'immortel cognitivement cumulatif qui sera de plus en plus vieux, donc de plus en plus intelligent, avec plus en plus de savoir. C'est The Man from Earth. C'est un super film de science-fiction où le héros justement, donc c'est un huis clos ou quelqu'un avec des amis, il s'en va en fait, et il explique que tous les 10 ans il s'en va parce qu'il ne vieillit pas et les gens commencent à le remarquer. Et en fait il raconte que c'est un homme de Cro-Magnon à la base et qu'il est là depuis du coup 14 000 ans. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la manière dont le film interprète l'immortalité, c'est justement en partant du principe que, donc il a cessé de vieillir vers 35 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il s'actualise en permanence. C'est-à-dire qu'il ne cumule pas parce qu'il a un cerveau fini, il a un cerveau imparfait. Il est tout le temps à un endroit, à un lieu, dans un lieu, pardon, à une époque, et il n'a jamais la vision globale de toute l'humanité, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, par simplicité, l'idée selon laquelle... l'idée selon laquelle, en fait, un personnage d'un certain âge va cumuler comme un ordinateur des données, comme s'il avait eu une vision globale de l'humanité. Et justement, je trouve que ce film avait réussi à faire le contre-pied intéressant, de montrer que l'immortalité n'était pas forcément, et la vieillesse non plus, synonyme de cumulation illimitée de connaissances, de savoirs, etc. Par les limites biologiques, déjà, mais aussi par les limites circonstancielles des conditions de possibilité, c'est-à-dire le temps et l'espace, pour le coup.
There was a documentary I listened to a while ago on This American Life, which is a really interesting podcast. And what you were saying is reminded me of it, because it was talking about people who have perfect memories. They remember every single thing that has ever happened to them in their lives, and it gives a very different experience of life, and that part of aging is forgetting, is to kind of move through life and just have certain things that we remember that form our internal narrative of ourselves. And one of the people was interviewed who has this condition, and it sounded absolutely debilitating because she could remember disagreements with people that had happened 20 years before with perfect clarity, and she could still feel that pain all the time, and every time she saw them or thought of them, it was as raw as when it first happened, and it sounded absolutely awful. And I think that's something that we kind of play with vampires, but that whole loss of innocence, I think we need to explore more perhaps how memory is preserved and how that changes the aging process as well.
Il y a un récit de Borges sur un personnage hypermnésique comme ça, qui est assez étonnant. Je voulais juste préciser l'exemple de Doctor Who, qui est intéressant, parce qu'il est lui-même immortel, et ils se sont amusés dans l'ensemble de la série à croiser différents types de personnages immortels, dont une qui ne se souvient plus et qui finit par tout noter dans des livres. Et c'est assez effrayant, parce qu'elle a une bibliothèque, et quand elle rencontre quelqu'un, elle va voir qui c'était dans ses souvenirs, quoi. Et c'est le côté, ce qu'on connaît tous en vieillissant, malheureusement, parfois, les choses qui nous échappent, les noms des gens, les événements. Et c'est ça étendu à l'immortalité, donc de manière presque cauchemardesque.
Mais parce que ce que cet immortel a de différent par rapport chez Doctor Who, c'est qu'elle est d'origine humaine. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les romans ou les films qui traitent de l'immortalité. C'est-à-dire que si un humain devient immortel, il devra le payer d'une manière ou d'une autre. Soit par le vieillissement physique ou intellectuel, soit de cette manière-là, c'est une malédiction, toujours une malédiction qui vient avec, en fait. On a l'impression que quand on devient immortel, on n'est plus humain quelque part et qu'on doit le payer très cher. Et les seuls qui ne le payent pas, c'est ceux qui sont immortels dès le départ, enfin, comme le docteur, justement, ou les dieux, ou les... Oui, voilà.
Oui, parmi je dirais l'image emblématique de l'immortel qui est damné, c'est vraiment Ahasverus, qui est le juif errant. Voilà, qui est celui qui, sur le chemin de croix du Christ, a refusé et lui a jeté la pierre, et qui est condamné à errer de par le monde. Donc on voit bien que là, l'idée d'immortalité est vraiment une malédiction. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu le roman de Jean d'Ormesson, qui est un grand auteur de SF, comme tout le monde le sait, je vous engage à lire l'histoire du Juif errant, qui est vraiment un super bouquin. D'un auteur de SF comme Jean d'Ormesson.
Alors, c'est bien les personnages qui vieillissent, mais on va parler des auteurs qui vieillissent, des autrices qui vieillissent, désolé. Est-ce qu'on vieillit avec ces personnages? Est-ce que ces personnages vieillissent avec nous? Est-ce que ça change notre manière d'écrire? Est-ce qu'on peut écrire vraiment facilement un personnage vieux quand on est un jeune auteur? Est-ce que c'est pas prétentieux à 25 ans de vouloir parler de la sagesse de la vieillesse? Est-ce qu'à l'inverse, c'est pas prétentieux à 70 ans de croire qu'on peut encore raconter les ardeurs de la jeunesse?
Coucou. Je sais pas si c'est prétentieux, parce que je vois pas pourquoi ce serait plus prétentieux de prétendre écrire sur la vieillesse quand on est quelqu'un de très très jeune. Ou par rapport au fait d'écrire un personnage féminin, par exemple, convaincant, ou par rapport au fait d'écrire un scientifique alors qu'on ne l'est pas du tout. Je pense que le travail de création de personnages, de toute façon, repose sur des illusions, clairement, des astuces aussi, mais surtout une capacité, en fait, à sortir de soi-même, à prendre du recul sur ce qu'on est, pour comprendre ce qu'on pourrait être, en fait. Et effectivement, c'est pour ça qu'on se projette toujours un petit peu dans les personnages concrets, parce que d'une manière générale, quand ces personnages ne nous ressemblent pas, et c'est tant mieux, quand ces personnages ne nous ressemblent pas, c'est qu'ils nous ont invités à un moment donné, en fait, à nous ignorer. Et je pense que c'est un processus assez sain, en fait, quand on essaie de créer des personnages qui ne nous ressemblent pas. Et pour le coup, je me sens pas spécialement en difficulté à écrire des personnages d'un certain âge, pour la simple et bonne raison que j'ai fréquenté et je fréquente des personnes d'un certain âge, et que, et oui, ça paraît fou. Et je pense que ce serait dangereux d'imaginer que moi, parce que j'ai 26 ans, je suis incapable de comprendre, dans une certaine mesure, encore une fois, des individus qui sont radicalement différents de moi par rapport à leur âge, leur sexe, leur genre, leur milieu social, etc., etc.
Yeah, it's the same risks of falling back into stereotype that we have to work hard to avoid as writers all the time. What I fear as a writer getting older is that it will become harder and harder for me to have the same pop culture references, which are critical to writing certain kinds of characters, that it will be progressively harder for me to access those things that I don't want to get too far away from certain age groups in society. I have a 10-year-old son, and we have a lot of common pop culture references, but we have a widening gap of ones that I fundamentally do not understand, mostly surrounding YouTube and YouTube stars. And it makes me feel old, and I've kind of filed away in my brain, never write about this, Emma, because you will not do it well. And that is one of the things I fear the most. But there are universal characteristics surrounding age that we can always write about, I feel. So it depends on the story.
Ce que j'ai remarqué à ce sujet-là aussi, c'est au fur et à mesure que je vieillis, c'est mon rapport à mes personnages change. Alors, j'ai écrit un certain nombre de romans fantastiques, et puis on me disait parfois, alors, bon, à la fin, il va rester un survivant. Et puis, ça a été comme ça pendant quelques-uns de mes romans au début de la vingtaine. Et j'ai remarqué un attachement croissant et un goût peut-être pour la série qui est venu de mon propre vieillissement, comme si je me disais, oh non, ils ne peuvent pas tous mourir de la même façon. Et puis, une sorte de développement de l'empathie qui est venu avec la façon de traiter les personnages et puis d'avoir envie de les revoir. Et également, en parallèle, une interrogation sur l'écriture. Je n'écrirais pas toujours des jeunes hommes et des jeunes femmes à la troisième personne du singulier comme ça. C'est la façon aussi de les présenter narrativement. Et comme ça a été mentionné, ce n'est pas parce que je suis dans la trentaine que je ne peux pas écrire sur des personnages plus âgés. J'aime aussi d'ailleurs beaucoup le faire, notamment avec... Je me rends compte que j'ai un personnage positif, féminin, âgé, qui est assez récurrent dans tout ce que j'écris. Ça va être souvent une Amérindienne, alors quelqu'un qui est issu des Premières Nations et puis qui va être un personnage fondamentalement positif. Alors, je veux continuer à aller là-dedans et à m'attacher à mes personnages de plus en plus.
C'est difficile d'y échapper. Moi aussi, je fais une série dont je parlais tout à l'heure avec Sénateur. Je suis en train d'écrire le tome 9. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, je me suis dit tel ou tel personnage, je vais les tuer, ça va être super, je vais faire des grandes scènes, ça va être tragique, ça va être... Les lecteurs vont pleurer, je vais les surprendre, etc. Et arrivé au tome où je dois le tuer, quand même, je l'aime bien, j'ai envie de le revoir. C'est moi qui suis piégée, en fait, par l'attachement que je commence à ressentir à mes personnages. J'ai de plus en plus de mal à le faire, en fait.
Même pour les animaux, hein.
Oui. Donc on vit vraiment avec eux, je pense, à partir d'un certain moment, effectivement, oui.
Oui, je crois que la capacité, comme le disait Nabil, d'un auteur à se projeter au-delà de l'âge ou même des genres est fondamentale. Pour l'instant, dans mes deux romans, j'ai été successivement un astronaute de 54 ans à la retraite, un extraterrestre vieux de plusieurs millions d'années, une femme commandant des forces spatiales. Donc on voit qu'il y a la nécessité à sortir un petit peu de sa personnalité, qui est essentielle chez les auteurs. Et ça va au-delà des questions d'âge, ça va également sur les questions de genre ou même l'appartenance tout simplement à une espèce humaine. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas, comme le disait également Nabil, sous-estimer, il ne faut pas croire que c'est plus facile pour un vieil auteur, on est tous jeunes sur cette scène, attention, on est vraiment tous jeunes, mais c'est pas plus facile effectivement lorsqu'on atteint un certain âge de se remémorer des passages de sa jeunesse, d'essayer de les actualiser et d'être toujours pertinent par rapport à la jeunesse actuelle. C'est pas forcément plus simple que pour, je dirais tout simplement, quelqu'un qui essaie d'imaginer quelqu'un d'incroyablement âgé et de se représenter l'état d'esprit à cet âge-là. Je pense que dans les deux cas, l'exercice est compliqué et oblige l'auteur vraiment à se projeter à l'extérieur de lui-même.
On va arriver à la fin, vous avez été formidable. J'avais donné un petit planning de départ, tout le monde arrive, on est à quoi ? Une minute de la fin. Alors félicitations, c'était des réponses passionnantes. Je vais recommander aux ceux qui s'intéressent à ce sujet deux films cet après-midi. Il y a L'effet papillon de un film américain qui parle de remonter dans le passé pour modifier sa vie. Donc on est un peu dans ces questionnements de est-ce qu'on pouvait changer sa vie, est-ce qu'on vieillirait différemment. Et puis The Fountain de Aronofsky qui alors là est assez complexe à expliquer, donc je vous laisse aller le voir, ce sera beaucoup plus simple. Vous êtes en signature après à la...
Oui.
Voilà, donc vous retrouverez une partie des auteurs en signature si vous voulez. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci.